Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Comme nous l'avons dit lors de notre dernière émission, nous allons poursuivre dans la série de BD parue ces derniers temps qui nous parle de résistance et qui nous plonge évidemment dans cette période de la Seconde Guerre mondiale. L'album que nous avons entre les mains aujourd'hui est un album tout à fait original de par sa présentation, son dessin, mais aussi de par le sujet qui est traité. Alors il est question de résistance à cette époque, mais sur une période très très courte, et une période que personnellement je ne connaissais pas, même si j'avais vaguement entendu parler de ce qui s'était passé dans le lieu que nous allons évoquer aujourd'hui. Cet album a pour titre « Des vivants », le dessin est de Simon Roussin, le scénario et les notes, parce qu'elles sont abondantes dans cet album qui est effectivement bien épais, avec une très belle présentation, très beau papier, donc scénario et notes de Raphaël Metz et Louise Moati. Une parution 2024, et je crois Thierry que c'est la première fois que nous parlons de cet éditeur.
Oui, nous nous sommes posé la question, je pense qu'effectivement c'est le premier album dont nous parlons. Alors, c'est un magnifique objet. Alors, objet, c'est pas un terme réducteur dans mon esprit. Cet album, ce gros album au dos toilé, au papier subtilement choisi, ça fleure bon une certaine artisanat littéraire.
On dirait un catalogue d'exposition.
Et d'une certaine façon, ça n'est pas faux, puisque il y a eu une exposition récente, à l'automne 2020, au Musée de l'Homme, car il est question du Musée de l'Homme dans cet album, une exposition sur le personnel du Musée de l'Homme qui a fourni parmi les premiers résistants en France, enfin à Paris en tout cas, ce qu'on appelle le réseau du Musée de l'Homme. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas grand-chose par rapport à ce que m'a appris tout cet album. On le disait, il y a une espèce de thématique en ce moment dans les albums qui sont évoqués, c'est la résistance et les formes de résistance. Les primo-résistants, ceux qui ont choisi dès le départ de s'opposer à la tyrannie, à l'arbitraire. Et l'histoire du réseau du Musée de l'Homme est assez exemplaire. Alors, elle est exemplaire dans le sens où les résistants du Musée de l'Homme, c'est un groupe assez hétérogène, dans l'ensemble quand même constitué d'ethnologues, de bibliothécaires, d'intellectuels, on va dire, entre guillemets, qui vont résister d'une façon très pratique. Dès la défaite, le directeur Paul Rivet, qui est vraiment l'âme de ce musée. Il faut rappeler que le Musée de l'Homme, c'est une création récente. C'est une création de la fin des années 1930. C'est en quelque sorte un rempart contre l'arbitraire, la barbarie et puis la pensée unique. C'est vouloir illustrer l'histoire de l'humanité et démontrer qu'il n'y a pas de race supérieure comme les régimes fascistes le laissent penser. Voudraient l'imposer, en tout cas, comme pensée unique. Et cette démarche, elle va se poursuivre pendant la guerre. Donc Paul Rivet organise la mise à l'abri des collections du musée. Il va déclarer le musée ouvert, il va placarder sur les murs le poème de Kipling « Tu seras un homme, mon fils » et il va écrire une lettre ouverte au maréchal Pétain en disant « Vous n'êtes pas propriétaire de la France ». Quelque part, tout ce rassemblement d'intellectuels, je le disais, ils vont mettre les mains dans le cambouis très vite en organisant la collecte de renseignements pour les alliés, le passage d'étrangers ou de combattants pour ce qui sera la France libre, je résume à grands traits, leur évasion, leur exfiltration de la France occupée. Un réseau qui sera tout à fait éphémère, puisqu'il va durer 4 mois, ou enfin quelques mois seulement, avant de tomber parce qu'ils sont infiltrés par une taupe.
Cela nous est raconté ici, mais d'une façon bien particulière, c'est-à-dire que les auteurs ont retrouvé des écrits, les paroles des protagonistes de l'histoire.
Tout ce qui est cité comme paroles, les dialogues, les déclarations, etc., tout est authentique. Tout correspond à ce qui a été prononcé, écrit, transmis par les protagonistes de l'histoire. Je fais un aveu, c'est peut-être ce qui serait le seul bémol par rapport à cet album, c'est qu'on a l'impression que c'est un album très écrit. C'est-à-dire que quand les gens dialoguent, c'est tellement bien écrit que j'allais
c'est
dire...
C'est presque pas réel.
Oui, voilà, ça paraît presque abstrait. Mais c'est vraiment le seul point qu'on pourrait discuter. Parce que tout est réussi dans cet album, à commencer par le dessin, qui est d'une grande simplicité, d'une grande élégance, d'une grande légèreté. Les couleurs. Je parlais du vert de gris pour évoquer cette période. Cette période, je me risquais même à citer l'adjectif de fuligineux, à cause des gazogènes et puis de bien d'autres choses. La noirceur, la grisaille, tout ce qui transparaît dans les actualités filmées. Alors, je sais qu'on a tendance à coloriser les actualités filmées maintenant. Mais là, au contraire, on est dans une poésie de la couleur, dans une beauté éclatante des couleurs, qui ne trahit pas du tout le sujet, qui au contraire le magnifie, lui donne un côté de parenthèse enchantée, d'euphorie, de détermination, d'énergie. J'ai l'impression de citer les termes qu'on avait cités la semaine dernière pour les Azous. D'une autre façon de résister, c'est emblématique de la volonté de changer notre regard sur la résistance, les premiers résistants. C'est un album qui est très émouvant, qui quelque part est un peu une suite, ou une conséquence, je dirais plutôt, la conséquence d'une exposition qui a eu lieu au Musée de l'Homme à l'automne 2020, où la direction du musée a célébré leurs grands anciens résistants, et montré qu'en cette période marquée par la pandémie, la multiplication des dictatures, non. Le Brésil et l'Amérique de l'époque n'étaient pas des dictatures, mais c'était des démocraties en péril parce que menées par... le Brésil l'est toujours, l'Amérique ne l'est plus, Dieu merci. Certains pays d'Europe centrale sont menés par des... j'ai du mal à pas dire dictateurs.
Hein. En tout cas, on assiste à l'apparition d'une forme de plus en plus répétée d'autoritarisme, on peut dire
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, d'autoritarisme, de déni de la réalité, de l'utilisation des fake news, de propagande haineuse, toutes les choses qui sont combattues par la culture et la curiosité scientifique qui sont l'emblème du Musée de l'Homme.
Alors, au Musée de l'Homme, à l'époque, il n'y a pas que des résistants non plus. Hein, il faut être juste. Ce récit nous le relate.
Oui, c'est une chose à laquelle il faut prendre garde, c'est que dans tout corps de métier, il y a eu des gens exemplaires, des scélérats. Et il y a eu des ethnologues qui ont prêté leurs compétences, qui ont vendu leurs compétences à l'ennemi en prétendant eux aussi démontrer l'existence d'une race supérieure. Tel n'est pas le cas des personnages exemplaires dont on voit l'histoire racontée dans cet album, qui ont connu un destin totalement tragique, puisque, on le disait, le réseau a été trahi par une taupe, et la plupart de ses membres, le directeur a échappé de justesse au pire, mais la plupart des membres du réseau ont été condamnés à mort, exécutés ou déportés. Très peu ont survécu. Voilà, c'est terrible de penser à ça. Au fil du récit, on prend fait et cause pour eux. C'est des personnalités hors normes, des cultivés, profonds, engagés.
Courageux.
Et courageux. Si on s'est un peu intéressé au sujet, on sait ce qui les attend, malheureusement.
Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous aurez forcément envie de lire ce livre, on l'espère. Si vous pensez que la bande dessinée, c'est quelque chose qui se lit en une demi-heure, eh bien là, vous allez devoir prendre un petit peu plus de temps. D'abord parce qu'il faut effectivement intégrer le récit et les échanges, les paroles qui sont mises dans la bouche des différents protagonistes. Parce que vous allez aussi profiter du dessin, évidemment, qui est plutôt ligne claire avec ses couleurs à la fois pastel et vive. Il y a un mélange sur ce plan-là. Mais aussi parce qu'il y a des notes très importantes. C'est très, très documenté comme ouvrage.
Il y a un appareil critique absolument exemplaire, qui est presque décourageant. Non, il ne faut pas se laisser décourager, justement. C'est exemplaire de la rigueur scientifique des ethnologues du Musée de l'Homme. Cette rigueur scientifique, cette volonté d'apporter la connaissance, on la retrouve dans l'appareil critique qui est adossé à cet album, qui est effectivement d'une richesse remise dans le contexte, biographie des personnages, pourquoi telle phrase est prononcée, à quel moment, dans quel contexte, par rapport à quoi. C'est exemplaire. Je le redis, mais tant pis.
Et puis, ça nous fait réfléchir. Donc, à aujourd'hui, on vous le redit aussi, parce que ça nous semble important de mettre les choses en perspective. Nous vous conseillons, vous l'avez bien compris, des vivants. Donc, c'est le titre de cet album de bande dessinée. Je ne sais plus combien de pages il fait, mais on est...
2024 Non.
Alors, édité par 2024.
Il n'y a pas 2024 pages.
Non, il y en a bien 200, en tout cas, ça c'est sûr. Avec un dessin de Simon Roussin, scénario et donc note importante de Raphaël Metz et Louise Moati. Une parution 2024, notez-le bien. Je ne sais pas si cet éditeur sera amené à changer...
De nom prochainement.
Au fur et à mesure des années, on verra bien. Mais en tout cas, là, ils sont bel et bien là et profitez de cette lecture qui mérite complètement le détour. Merci Thierry. Et c'est promis, on changera un petit peu de thématique pour la prochaine fois. Enfin, a priori, on verra bien ce qui se passe. Merci, à bientôt.